l'économie.
Le centre Carter et les organisations œuvrant dans le secteur minier dénoncent l'opacité dans la réalisation des projets miniers, d'où la publication d'un rapport intitulé « Qui cherche ne trouve pas de transparence dans le secteur minier ». À la une également les 26e journées annuelles du club des dirigeants des banques et institutions de crédit d'Afrique. Au menu, la nouvelle banque africaine et les défis du changement. 40 tonnes de coton graines viennent d'être produites en province orientale. C'est l'œuvre d'une association privée congolaise nommée Groupe Armand Borel Kasumbu ABK Ansig. Bonsoir et bienvenue à tous. Qui cherche ne trouve pas de transparence dans le secteur minier. C'est l'intitulé du rapport qui vient d'être publié par quelques organisations de la société civile œuvrant dans le secteur minier au Katanga, Nord-Kivu et en province orientale en partenariat avec le centre Carter. Dans ce rapport, ces organisations dénoncent la non-transparence dans la réalisation des projets miniers. Comment alors, au niveau de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITE en sigle, on arrive à récolter des données dans les entreprises minières? Colin Dumas-Moussampo nous répond.
D'après Emmanuel Umpula, coordonnateur de la plateforme Evra dans les mines Pomme en sigle, ce rapport a été rédigé par 4 ONG. C'est notamment sa plateforme La Pomme, la Maison des mines du Sud Kivu, le cadre de concertation de l'Ituri, ainsi que le centre Carter. Dans ce rapport, il a été plus question de faire une analyse des différents projets miniers. Emmanuel Umpula.
Il y a beaucoup d'informations auxquelles la population, quand vous lisez les tableaux, c'est une information qui a reçu une cote vraiment en deçà de la moyenne, suivi de la publication des états financiers des compagnies ou des bilans. Donc, ce sont des informations qui ne sont pas disponibles.
Réagissant, le professeur Donan Kampata, coordonnateur au ministère des Mines, déclare détenir au niveau du ministère des Mines tous les documents attestant la transparence de ces entreprises minières. De son côté, l'ITIE reconnaît tout de même avoir reçu ce rapport. Son coordonnateur national affirme toutefois qu'il ne revient pas aux ONG d'exiger aux entreprises minières leurs états financiers. Comment alors, au niveau de l'initiative pour la transparence des industries extractives, on arrive à récolter des données transparentes dans les entreprises minières? La réponse avec le professeur Jérémy Makndouba, coordonnateur national de l'ITIE, joint depuis l'Inde.
Nous collectons des informations librement. Nous avons collecté des informations qui sont publiées dans notre dernier rapport avec les organisations qui ont publié ce rapport.
Rappelons que cette étude permet de mettre en lumière un grand nombre de défis auxquels doivent faire face les personnes qui cherchent des informations sur les différents aspects des projets miniers. Lubumbashi, Colin Djuma Moussampo, Radio Okapi.
Comment améliorer le classement de la RDC au Doing Business 2016? Quelles sont les réformes attendues pour y arriver? Ces questions étaient à l'ordre du jour de la réunion du comité de pilotage du climat des affaires et des investissements, une réunion conduite notamment par le ministre en charge du plan, Olivier Kamitatou, est au micro de Nadine Fulansimba.
Nous avons constaté lors de ce comité de pilotage qui vient de se terminer ici que nous pouvons être classés parmi les 10 pays les plus grands réformateurs au monde, mais le climat des affaires et des investissements ne s'améliore pas pour autant. Nous sommes donc de très bons théoriciens, mais de très mauvais praticiens. Et donc, nous avons un double défi. Alors, le Premier ministre nous a posé ce double défi, rester dans le top 10, dans les 10 premiers pays réformateurs, mais en même temps, améliorer réellement la pratique des affaires en République démocratique. Bien, une des grandes réformes que nous souhaiterions, c'est bien entendu améliorer la qualité des titres de propriété, que les PME puissent accéder plus facilement au crédit. Une autre préoccupation, c'est que nous avons énormément de taxes. Ça veut dire que nous devons faire en sorte que pour payer toutes ces taxes, eh bien, nous ayons peut-être même un modèle unique, où à travers un seul paiement, eh bien, plusieurs services de l'État ont pu voir leurs taxes être apurées. Là aussi, c'est une deuxième réforme qui devra être courageusement menée. Commerce transfrontalier, nous devons être plus efficaces, plus performants. Il faut que les importations coûtent moins cher et qu'elles soient plus rapides dans notre pays. Voilà. Nous voulons maintenant aller au concret. Au-delà simplement de signer des arrêtés, nous devons véritablement voir que la PME est en train de se développer, que l'accès au crédit pour les PME puisse être maintenant beaucoup facilité. Ça, c'est une réelle préoccupation de tous les membres du gouvernement.
Kinshasa a abrité hier et aujourd'hui les 26e journées annuelles du club des dirigeants des banques et institutions de crédit d'Afrique. Le club s'est réuni à Kinshasa sur invitation de l'Association congolaise des banques. Le thème choisi, la nouvelle banque africaine, les défis du changement en marche. D'après le président de l'Association congolaise des banques, la présence de ces dirigeants du club dans la capitale congolaise témoigne du fait que le Congo est devenu fréquentable et que le système bancaire congolais mérite le détour. Michel Lossembe décrit l'environnement des affaires avant d'en relever les défis majeurs. Il est au micro de Daniel Tambinzoni.
Le secteur bancaire africain est aujourd'hui globalement en meilleure santé qu'hier. Les comportements ont évolué, des modifications structurelles ont été conduites à travers le continent. Plusieurs institutions bancaires ont fait preuve d'une grande résilience et d'un professionnalisme accru en enregistrant naturellement des meilleurs résultats comparables à la croissance de l'économie africaine en général. En effet, poussé par une croissance économique qui s'accélère, que les banques facilitent et organisent, les banques enregistrent une progression régulière de tous leurs indicateurs d'activité et d'exploitation. Résultat, elles sont de plus en plus présentes dans le palmarès international qui liste annuellement les plus grandes banques du monde en mettant en valeur leur évolution positive. En dépit de sa vitalité, ce secteur doit, pour continuer à appuyer le développement du continent, relever de nouveaux défis concernant notamment le degré de concentration des établissements bancaires, le taux de bancarisation encore très faible des populations qui s'échelonne de plus de 50% dans les pays les plus développés d'Afrique et à moins de 10% dans certains autres pays. Du fait de cette situation, les acteurs du secteur bancaire africain ne ménagent pas leurs efforts pour développer des stratégies visant à capter de nouveaux clients tout en diversifiant leurs produits. Des produits qui de fait sont toujours plus nombreux et plus modernes. La résurgence de la monétique, de la banque en ligne, de la téléphonie mobile, l'expansion des paiements par carte sont nature et foison en Afrique sur les dernières années. Désormais, mieux organisées et plus innovantes, les banques africaines rattrapent leur retard et devancent même leurs homologues de certains pays occidentaux sur certains produits. C'est vrai notamment du mobile banking que nous avons évoqué tout à l'heure, qui connaît en Afrique un succès phénoménal dont bénéficient largement les opérateurs de téléphonie mobile, bien sûr sur le continent, mais surtout les populations.
De son côté, le personnel du SENAREC, Secrétariat national pour le renforcement de capacités, a présenté hier à Kinshasa ses attentes pour 2015 au nouveau ministre du Plan. Cet organe technique veut relever le défi de centraliser toutes les formations et être le fournisseur du personnel compétent pour booster l'administration publique. Nadine Foula.
À la préoccupation des membres du SENAREC de devenir un centre de coordination de toutes les activités de renforcement des capacités sur toute l'étendue nationale, mais aussi de devenir un fournisseur central du personnel d'appoint dans tous les secteurs de la vie pour une administration publique moderne et compétente, le ministre du Plan a répondu, je cite, « Si nous voulons planifier l'avenir, il nous faut les capacités en ressources humaines pour préparer la RDC aux grands défis qui attendent le pays. » Olivier Kamitatu a, à l'occasion de cette visite, rappelé les grandes transformations subies par cette structure technique et a validé la première étape de la validation de la stratégie nationale de renforcement des capacités. Un renforcement qui va toucher tous les ministères. Le SENAREC a le devoir de rendre l'administration publique congolaise à la fois performante et efficace. Pour y arriver, il promet que le gouvernement va disposer de moyens nécessaires pour que l'administration publique reflète une image positive, une image dynamique et de modernité. Rappelons que le SENAREC a été créé par un arrêté ministériel en 1998. Il est financé par la Banque mondiale pour une période de 5 ans à dater du 26 octobre 2011.
Écho d'économie. En province orientale, après plus de 20 ans de fermeture, les activités de production du coton dans l'ancienne concession de la Compagnie de développement rural du Nord, Codénor, renaissent petit à petit à Likati. Il s'agit là d'un poste d'État du territoire d'Akéti, à plus de 400 km au nord de Kisangani. Le groupe Armand Borel Kasumbu, ABK en sigle, qui s'y est investi depuis juin dernier, a annoncé hier, au cours d'un point de presse, la production de 40 tonnes de coton, production réalisée au cours de la saison culturelle de juillet 2014 à janvier 2015. Armand Borel Kasumbu, coordonnateur du groupe, s'exprime sur le travail abattu pour arriver à cette production. Il est au micro d'Anselme Massoa.
Sur les 3 tonnes de semences que nous avions achetées, nous avons quand même pu distribuer auprès de 442 agriculteurs, tous autour de l'Ikati. Cette semence devait permettre de cultiver le coton sur plus ou moins 101 ou 102 hectares. Nous avons fourni les semences, nous avons fourni un encadrement agricole, nous avons des moniteurs agricoles et nous avons fourni aussi des insecticides. Nous pensons qu'avec les différentes pertes, nous estimons en tout cas que en termes de prévision de la récolte en coton graines cette année, nous comptons récolter plus ou moins 50 tonnes. Et tout au long du mois de février, nous allons maintenant passer au ramassage du coton, c'est-à-dire au paiement du coton. Tout le coton qui sera produit sur l'ensemble du territoire de Akiti, eh bien, aucun coton ne devra rester à l'arrière, tout sera acheté par mon personnel au courant de ce mois-ci.
Comme chaque première semaine du mois, nous vous présentons le panier de la ménagère. Actuellement, sur les marchés de Kinshasa, il s'observe une baisse de prix de certains produits de première nécessité, d'après Nadine Foula, qui a circulé dans quelques marchés de la capitale.
Eh bien, Mireille, il s'agit de l'huile végétale de marque Oki. Le litre se vend à ce jour à 7000 francs contre 7500 il y a un mois. Mais pour les autres marques d'huile, les prix d'un bidon de 5 litres est resté à 9000. Pour le sachet de sucre grand format, il s'observe une baisse de 150 francs, c'est-à-dire il se négocie maintenant à 5150 au lieu de 5300 francs. La boîte de lait Kerrygold de 2500 grammes se vend maintenant à 25000 alors qu'il y a peu, il fallait avoir 27000 francs pour l'avoir. Un carton de savon familial se vend à 5000 francs au lieu de 6000 francs. Dans ce lot, il y a aussi les sacs d'haricots dont le prix revient à 160$ au lieu de 180$. Et les prix n'ont pas bougé pour les autres produits tels que les vivres frais, le produit céréalier et autres. Le petit bassin de tomates fruits se négocie à 5000 francs, même prix pour les oignons. Le petit filet des ail se négocie à 3000 francs. Un tas de pommes de terre varie entre 1000 et 2000 francs congolais selon la grosseur de pommes de terre. Le sac de riz de 25 kg continue à se vendre entre 22 000 et 24 000 francs congolais. Voilà ce qu'il faut retenir sous le prix de produits de première nécessité en ce mois de janvier 2015.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Léonard Moulamba, mise en onde par Jean-Noël Mokondo et suivie par vous. Merci.